Géopolitique.
We've learned again that democracy is precious.
Analyse.
Poste de combat.
Débat. Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Pierre de Villeneau.
Bonjour, bonjour à tous et merci de nous écouter sur ce premier podcast qui en appellera bien d'autres et qui vous permettra de comprendre les enjeux stratégiques de la Marine nationale. Aujourd'hui, et parce qu'il en a beaucoup été question dans l'actualité récemment avec l'affaire, la fameuse affaire des sous-marins, l'Indo-Pacifique nous intéresse, d'abord parce que c'est loin, à une dizaine de milliers de kilomètres en moyenne de Paris, qu'il reste une sorte de mystère et pourtant, avec 1 650 000 Français d'outre-mer, plus 200 000 expatriés, plus 8 300 militaires sur place, il demeure, notamment pour les Français, un enjeu politique, stratégique, commercial et bien sûr militaire. La Chine, on le verra, devient l'épicentre peu à peu de cette zone jusqu'à présent bien partagée. Quel avenir pour la France en Indo-Pacifique? Comment protéger nos intérêts? Comment résister à une hégémonie chinoise grandissante, croissante dans cette zone? Comment éviter un conflit avec les nouvelles tensions sino-américaines? Quelle stratégie pour l'AUKUS? Quelle stratégie pour le Quad? Autant de questions abordées ce jour avec mes invités. Marianne Perrondoise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en stratégie sécurité maritime internationale à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, spécialiste notamment de l'Asie du Nord. Bonjour à Natalia Pouzireff.
Bonjour.
Madame la députée des Yvelines, membre de la commission de défense. Vous êtes au départ ingénieur, vous venez du monde de l'entreprise, vous avez travaillé pour Thales, pour Airbus, vous connaissez très bien la Chine parce que vous y avez vécu notamment. Et bonjour au vice-amiral d'escadre Jean-Louis Lozier.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui conseiller auprès de l'IFRI, mais en tant que sous-marinier, vous avez été dans cette zone, donc vous connaissez parfaitement les lieux, si j'ose dire. Vous êtes ancien chef d'état-major à l'Indien, ancien chef de division nucléaire. Le nucléaire dans cette région, justement, c'est l'un des enjeux principaux. Alors, commençons par le commencement. Pour une grande partie des Français, début septembre, ils n'ont pas découvert l'Indo-Pacifique, enfin, je l'espère, mais en tout cas, ils ont découvert que dans l'Indo-Pacifique, il y avait des enjeux majeurs. Il y a ce fameux contrat rompu par les Australiens avec les sous-marins français. Bien entendu, il a été le propulseur de toute une réflexion sur cette zone du monde pourtant lointaine pour nous. D'abord, d'où est-ce qu'on part? Faisons le point de départ un peu historique des choses. Pour la France, l'Indo-Pacifique, ça représente quoi, Marianne Perrondeau?
L'Indo-Pacifique, en fait, pour la France, c'est une réflexion qui s'inscrit dans le temps long, puisque, comme vous venez de le dire, elle n'a pas découvert l'Indo-Pacifique à la faveur de ce contrat. Bien sûr que l'Asie et le Pacifique faisaient partie depuis longtemps des préoccupations et d'analyses stratégiques, non seulement du côté des cercles militaires, mais évidemment politiques, puisque la France est une puissance riveraine, et donc elle a des enjeux à défendre dans cette zone, et surtout une politique, je dirais, de partenariat qu'elle a su enclencher très tôt, de façon à renforcer sa présence. Et donc cet Indo-Pacifique qui paraît assez récent, puisqu'au fond, la France a conceptualisé l'Indo-Pacifique dans des documents de 2018 pour le ministère des Armées et plus récemment 2019 pour le ministère des Affaires étrangères. Cet Indo-Pacifique, il était déjà vécu, organisé et je dirais habité depuis bien sûr un certain temps.
Natalia Pouzireff, des enjeux effectivement dès le départ, depuis très longtemps pour la France?
Certainement, mais moi j'en reviendrai à la géographie. Madame Marion Doise ayant parlé de l'histoire, la géographie c'est effectivement une grande partie de notre zone exclusive économique et en fait je crois que c'est environ 90%. La Nouvelle-Calédonie représente à elle-même 60% de cette zone exclusive. Donc forcément que nous y avons des enjeux parce que nous sommes une puissance riveraine. Et puis aussi l'Indo-Pacifique, c'est pas seulement pour la France, c'est pour tout le monde occidental une des routes d'approvisionnement en matière, des routes de composants stratégiques aussi. Ce sont des routes qui approvisionnent la plupart des pays en énergie. Et c'est pour ça qu'elles sont tant stratégiques, autant pour la Chine que pour l'Occident.
Au point de vue militaire, amiral, il faut qu'on pense à la guerre d'Indochine, parce que ça, de mémoire, ça a été le dernier conflit vraiment sur place. Mais des conflits, d'abord, il peut y en avoir, on le verra par la suite, mais il y a une présence militaire et une surveillance qui est toujours là.
Alors, il y a une présence militaire parce que nous sommes riverains, parce que nous avons des territoires, des départements en océan Indien ou dans le Pacifique. Donc, que ce soit à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, nous avons des moyens des forces armées, hein, moyens qui ont d'ailleurs été beaucoup réduits depuis une quinzaine d'années au fur et à mesure des différentes réorganisations, restructurations des armées, ce qui fait que nous avons aujourd'hui des moyens qui sont très tendus. Alors, ces moyens vont être remplacés grâce à l'actuel loi de programmation militaire, mais tout cela prend du temps. Donc nous sommes présents, vous l'avez signalé, avec environ 8000 militaires. Nous y avons des moyens navals, des moyens aériens. Au-delà des quatre implantations dont j'ai parlé, il faut également mentionner notre implantation à Abu Dhabi, avec la base aux Émirats Arabes Unis.
Et du coup, c'est une présence militaire de surveillance, c'est-à-dire qu'on est aux aguets, où on commence un petit peu à s'exciter un peu avec ce qui se passe.
Alors, c'est d'abord une présence pour défendre nos intérêts français, et les intérêts de
les
territoires de nos citoyens.
Voilà, ouais.
Mais c'est également une présence pour s'intéresser, eh bien, aux problèmes de ce monde. Régulièrement, nous avons une frégate de surveillance ou un avion qui, typiquement, va surveiller l'embargo qui a été mis sur la Corée du Nord pour éviter qu'effectivement la Corée du Nord puisse s'approvisionner avec des pièces pour continuer à moderniser son arsenal nucléaire. Donc ça fait partie...
Donc c'est suffisamment dissuasif.
Alors, nous participons avec nos amis et alliés dans la région à ce type de surveillance. Nous participons en océan Indien, bien évidemment, là aussi, depuis plus d'une dizaine d'années, à la lutte contre la piraterie. Donc nous inscrivons évidemment dans l'ensemble des crises et des problématiques qui se posent aujourd'hui.
Comment est-ce que la France est perçue dans cette zone, Natalia Pozyreff?
Eh bien,
c'est
une vaste zone, c'est évident. Et donc, la France est bien perçue comme un partenaire crédible, légitime, du fait de notre présence, comme on l'a dit, dans ces territoires d'outre-mer. Et ça lui donne effectivement cette crédibilité pour aussi établir des partenariats dans la zone, mais aussi parce que nous avons une crédibilité en tant que fournisseurs aussi d'armement. Donc, nous avons des partenariats avec l'Inde, avec l'Australie, nous en avions, mais la situation s'est compliquée récemment, avec la Malaisie et bien d'autres pays de la zone. Il y a bien sûr une histoire commune avec certains pays de l'ASEAN. Et je crois que la relation avec la Chine, entre la Chine et la France, est particulière aussi, du fait de la reconnaissance en premier, hein, par le général de Gaulle en 1964 de la République populaire de Chine. Donc, nous sommes perçus comme un pays tout à fait attractif pour dans bien des domaines, mais aussi tout à fait crédible sur le plan de la défense, sur le plan de la technologie.
C'est ça qui est assez à la fois amusant et paradoxal, et je ne vais pas aller plus loin dans les qualificatifs, c'est qu'on est fournisseur d'armes et en même temps, on se retrouve avec des ennemis potentiels qui pourraient servir de ces mêmes armes pour nous contrer un jour. Donc c'est paradoxal comme situation.
Non, je pense qu'il y a une logique, puisque en fait, bien sûr, cette qualité d'État résident et donc le fait que la France soit une puissance riveraine et donc quelque part asiatique, c'est un élément qu'il a quand même fallu faire comprendre à tous nos partenaires qui quand même au début nous considéraient comme en fait une puissance extérieure occidentale, néocoloniale, hein, n'ayons pas peur de le dire.
Il y a encore ce stigmate. Hein.
Il y a une certaine réticence à nous intégrer dans une réflexion globale où la France, indépendamment de ses territoires et donc de sa volonté de les défendre, Flandre se positionne comme un acteur de la sécurité régionale. Et donc le discours de la France auprès des grandes enceintes de dialogue sur ces questions a été de dire nous avons des intérêts communs. Madame Pouzyreff, vous avez mentionné la sécurité maritime, les voies de communication, ces grandes routes maritimes qui étaient donc menacées par la piraterie, qui le restent d'ailleurs, et qui ont impliqué très tôt la mise en place d'opérations navales auxquelles la France a participé très opportunément. Donc tous ces éléments font que la France s'est très vite positionnée dans le cadre de partenariats, en voulant être un acteur constructif, en ayant un discours sur le multilatéralisme et effectivement en ayant ces partenariats technico-opérationnels qui reposent sur le transfert d'équipements militaires majeurs. Je pense qu'on peut mentionner la constitution de la flotte sous-marine malaisienne qui est quand même une grande étape dans la reconnaissance de la France acteur de la sécurité en Asie du Sud-Est et en Asie Pacifique au sens large.
Alors justement, pour reprendre un exemple pour nos amis néophytes qui nous écoutent, amiral, justement sur une opération comme celle-ci, par exemple sur la défense face à la piraterie, comment ça se passe? On va pas refaire un film de guerre ou une série télévisée, mais concrètement, comment est-ce que la marine intervient justement en tant que gardien de cette zone?
Eh bien, les problèmes de piraterie dans l'ouest de l'océan Indien ont commencé à peu près vers 2007-2008.
Pas avant.
Avant, il y avait quelques cas, mais qui étaient encore assez ponctuels le long de la côte somalienne. Et c'est vraiment, c'est un souvenir que j'ai en mémoire puisque j'étais directement impliqué dans cette affaire, en avril 2008, avec la prise du Ponant par des pirates, que la France est vraiment rentrée dans cette problématique là et que les Français ont pris conscience que ça allait concerner également eux, puisque le Ponant était un bâtiment de croisière appartenant à une compagnie française avec un équipage français. Et donc, nous avons réagi et mis en place le dispositif qui a permis ensuite de conduire, quelques jours plus tard, à la libération du Ponant.
Alors, je ne me souviens plus du dispositif. Du coup, c'était quoi? On a envoyé quoi?
On a envoyé, j'étais à ce moment-là chef d'état-major à l'Indien, et donc on a concentré à peu près les moyens que nous avions facilement disponibles dans la zone. Et donc, nous y avons envoyé, par exemple, le groupe Jeanne d'Arc, qui était en escale, qui quittait une escale à Madagascar. Nous y avons envoyé deux ou trois frégates. Le bâtiment de commandement à bord duquel nous étions a été dérouté pour aller justement ravitailler.
Donc, plusieurs navires, quand même, à chaque fois. C'est quand même des gros moyens.
Plusieurs navires, puisque, compte tenu des élongations, et je crois que lorsqu'on parle du théâtre indo-pacifique, il faut tout de suite avoir une idée des élongations. Oui. Il y a plusieurs jours de mer à chaque fois que l'on se déplace d'une zone d'opération à une autre ou à un port de ravitaillement. Et donc à l'époque, c'est vrai que nous avions utilisé beaucoup de moyens, mais c'était la première opération de ce type que nous faisions. Là aussi, il fallait se préparer au pire. Le pire, c'était éventuellement beaucoup de morts, beaucoup de blessés, qu'il aurait fallu être capable de traiter sur place, puisque nous n'avions pas de moyens rapides d'évacuation. Donc ça fait partie des choses qui ont été prises en compte. Et ensuite, la France a été très active pour monter l'opération Atalanta, l'opération européenne Atalanta de lutte contre la piraterie dans cette zone, et opération qui est remplie de succès, puisqu'à l'heure actuelle, les actes de piraterie aux alentours du golfe d'Aden sont quand même maintenant extrêmement réduits, voire nuls.
Oui, donc finalement, ce genre d'opération, ça paye, comme on dit. Et vous parliez d'élongation, je crois savoir que de Toulon jusqu'à l'Indo-Pacifique, c'est à peu près 30 jours de mer.
Ah bah, ça dépend d'où, si vous faites commencer l'Indo-Pacifique en mer Rouge, c'est globalement une semaine. Si vous voulez aller en Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est plutôt de l'ordre d'un mois.
Oui, c'est ça, voilà. Vous parliez tout à l'heure de la gouvernance dans l'Indo-Pacifique, donc j'imagine il y a plusieurs... C'est pas que j'imagine, c'est que je sais. Il y a évidemment plusieurs nations qui gardent, j'allais dire, cette zone. Comment ça se partage? Qui décide? Est-ce qu'il y a une autorité qui dit, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça? Comment est-ce que ça se partage?
Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une architecture de sécurité régionale. Il y a quand même des enceintes où on discute de questions de sécurité. Mais évidemment, il y a les grands acteurs que l'on connaît. Pour revenir sur le problème de la piraterie, s'il y a eu trois opérations navales à un moment, c'est qu'à la base, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité qui a attiré l'attention de la communauté internationale sur ce danger que représentait la piraterie pour la stabilité de la zone, mais bien sûr pour l'indépendance et le commerce international. Donc on voit que cet acteur international, il a une capacité à intervenir dans la sécurité régionale, mais bien sûr lorsqu'on regarde l'Indo-Pacifique, on pense tout de suite à l'ASEAN et aux différents dialogues de sécurité et formats de sécurité que l'ASEAN a su mettre en place et qui a intégré l'ensemble justement des acteurs dits extérieurs à la zone. Parce que c'est vrai que vu des 10 pays d'Asie du Sud-Est donc, qui ont formé l'ASEAN, les États-Unis, l'Australie, le Japon, et la France, il faut bien le dire, sont considérés quelque part comme des nations extérieures à la zone, mais qui peuvent participer à la sécurité, et notamment à partir du moment où l'expansion chinoise, le poids, l'influence économique et militaire de la Chine sur la zone s'est accrue et où il a fallu finalement trouver une forme de contrepartie et donc attirer le maximum d'interlocuteurs de façon à diluer un certain poids chinois. Alors, sur l'ensemble de la zone.
On va y venir à l'arrivée de la Chine, hein, parce qu'évidemment, ça rabat beaucoup de cartes, mais juste, j'allais dire, avant l'arrivée de la Chine, ce partage, il se faisait de manière homogène, Natalia Pouzirev ?
Eh bien, comme nous le disions, c'est une zone extrêmement vaste et la France, bien sûr, y est présente. Je dirais que parmi les puissances européennes, avec la Grande-Bretagne, c'est la seule capable de se projeter. Mais il ne faut pas...
Aussi parce qu'on a une marine plus puissante que les autres pays européens ?
Tout à fait, et que nous avons... nous sommes la première armée européenne et nous avons un modèle d'armée complet et donc nous avons investi des moyens... y compris pour la marine nationale. Mais il ne faut pas se tromper, c'est ce qui était dit aussi. Aucun pays européen n'a, je pense, la prétention de pouvoir participer à être garant d'un ordre en Indo-Pacifique. Je crois que ce serait se leurrer que de le dire. Donc l'approche qui prévaut dans cette zone aussi vaste, c'est celle des partenariats. C'est celle des partenariats et certainement adossée au grand frère américain qui est, bien sûr, par sa puissance navale et par le rôle qu'il entend jouer, qu'il a joué et qu'il continue de jouer depuis que Obama a déclaré cette stratégie du pivot vers l'Asie, eh bien, je pense que voilà, il y a quand même un adossement à la puissance américaine et c'est pour ça, ça peut expliquer en partie le choix des le revirement des Australiens, même si nous en sommes fort mécontents.
Amiral.
Oui, je voulais effectivement insister sur ce qui vient d'être dit, sur le poids des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, qui sont évidemment la puissance prédominante en Pacifique, mais également lorsqu'ils ont voulu être prédominants en océan Indien, ont pu le réaliser tout de suite. Et c'est bien, je crois, aujourd'hui, cette contestation par la Chine, dont nous allons parler, qui est le point majeur à étudier.
Alors justement, voilà une bonne transition. Merci à vous, Amiral Lozier. L'arrivée de la Chine rabat évidemment toutes les cartes dans cette, j'allais dire, stratosphère de l'Indo-Pacifique. Je rappelle que nous sommes toujours avec Marianne Perrondoise, chercheuse en stratégie sécurité maritime internationale à l'IRSEM, avec la députée des Yvelines et membre de la commission de défense, Natalia Pouzirev, et avec le vice-amiral d'escadre, Jean-Louis Lozier, qui notamment est un grand spécialiste du nucléaire. Qu'est-ce que ça provoque, l'arrivée, j'allais dire, assez exponentielle de la Chine? J'utilise le mot exponentiel parce que ça aurait pu être une accélération un peu molle, mais là, on a l'impression qu'ils ont directement passé la cinquième vitesse, Marianne Perrondoise.
C'est-à-dire que surtout la Chine s'est montrée visible sur l'ensemble de l'Indo-Pacifique. Hein. L'amiral a bien insisté sur les deux bassins maritimes. Et en fait, la Chine s'est faite plus visible dans l'océan Indien, à la grande préoccupation de l'Inde, qui considère quand même que c'est son arrière-cour. Elle s'est fait plus visible avec cette participation d'ailleurs à la lutte contre la piraterie. Elle s'est intéressée à Djibouti où elle a obtenu des facilités logistiques, a établi sa première base navale ou même, disons, militaire, hein, outre-mer, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter. Et c'est vrai qu'en parallèle, depuis les années 2012, elle déployait ce, ou elle déploie ce projet qu'on appelle Route de la Soie, avec une dimension maritime de plus en plus visible, et cette ambition de moderniser un ensemble d'infrastructures, notamment portuaires, qui font craindre, notamment de la part de l'Inde, à la mise en place de ce fameux collier de perles dont on a beaucoup parlé à un moment, cette stratégie où la Chine progressivement se déploie et avance tout le long de l'océan Indien vers Suez, en protégeant en fin de compte son transit à la fois marchand, mais aussi ses intérêts de puissance militaire. Et dans la partie pacifique, bien sûr, il nous faut quand même parler de la mer de Chine du Sud, où là, la Chine a durci ses revendications maritimes, qui étaient plus ou moins latentes, qui se réveillaient, je dirais, régulièrement dans le cadre de tensions avec le Vietnam, les Philippines, mais qui a pris un caractère, je dirais, plus affirmé et surtout plus brutal, puisque cette marine, on l'a vu de plus en plus défendre donc ses revendications maritimes. On a vu une marine et aussi une flotte de garde-côtes, mais également des milices maritimes chinoises.
Alors justement, je voulais interroger l'amiral Lozier sur, j'allais dire, l'arsenal chinois. Si on va dans le hangar, dans le garage des Chinois, qu'est-ce qu'ils construisent, à quelle vitesse, combien de tonnes, c'est quoi l'arsenal chinois?
Ils construisent beaucoup et vite. Ouais. L'amiral Prazuk disait que les Chinois construisaient une flotte française tous les 4 ans. L'autre jour, l'amiral Vendier a dit « Actuellement, c'est plutôt tous les 3 ans ». Donc ça vous donne une idée de la rapidité avec laquelle, s'appuyant sur leur outil industriel colossal, hein, les Chinois construisent un arsenal conventionnel, notamment naval, et surtout nucléaire. Et cette croissance de l'arsenal nucléaire est aujourd'hui extrêmement préoccupante. Nous sommes aujourd'hui à un point, un minima point d'inflexion. Les Américains parlent de rupture dans la politique nucléaire chinoise de défense. Jusqu'à présent, et depuis que la Chine a acquis l'arme nucléaire en 1964, la Chine avait une doctrine dite de dissuasion minimale, assez similaire finalement à celle qu'a la France, c'est-à-dire défense strictement de nos intérêts vitaux, mais sans rentrer dans la possibilité d'une guerre nucléaire. Hein. Vous savez que la France rejette l'idée de guerre nucléaire. Et donc, la Chine avait, jusqu'à il y a quelques années, un arsenal qui était même inférieur à celui de la France, puisqu'on estimait que cet arsenal était composé d'environ 200 têtes. Hein. Nous, on sait que notre plafond est de 300 têtes nucléaires. Bon. Et tout cela, eh bien, est en train, cette vision que l'on a est en train de voler en éclats. On a découvert, et les sources ouvertes hein, que l'on peut avoir via les satellites ont découvert cet été plusieurs champs de silos de missiles terrestres pour accueillir des missiles type DF-41. Hein, je rentre un peu dans la dénomination des missiles, qui sont des missiles intercontinentaux. Et donc, on a vu apparaître à peu près 300 pas de tir. Alors, sont-ils actuellement...
En mer de Chine ?
Alors, pas en mer de Chine, non, ça, ce sont des missiles terrestres hein, qui sont répartis dans 3 endroits sur le territoire chinois, hein, mais qui, en tout cas, montrent une évolution franche par rapport à cette doctrine dont j'ai parlé jusqu'à présent, qui était la doctrine chinoise. Parallèlement, les Chinois construisent une flotte de SNLE, donc ils sont actuellement une première série de SNLE, de 6 SNLE. Hein,
6,
donc
ouais.
Ils ont une première série de 6 SNLE et ils préparent une prochaine série, dont on ne sait pas encore combien il y aura, plus gros et surtout équipé de missiles ayant une plus grande portée, puisque aujourd'hui, pour en revenir donc à cette première flotte de SNLE chinois, ils sont équipés d'un missile qui s'appelle le JL-2, qui a environ 7000 km de portée, et donc qui oblige les SNLE chinois, s'ils veulent être emportés de l'ensemble des objectifs potentiels américains, notamment ceux de la côte Est, à se déployer vers le Pacifique central. Et donc, pour les surveiller, les Américains ont mis en place toute une opération de surveillance sous-marine autour de la mer de Chine méridionale. Pourquoi autour de la mer de Chine méridionale? Parce que la base des SNL chinois est dans l'île de Hainan, donc qui donne sur la mer de Chine. Et donc, c'est pour ça que les Américains y déploient régulièrement des sous-marins nucléaires d'attaque. On a entendu parler récemment de l'incident du Connecticut, mais il faut savoir également qu'ils déploient depuis leur base, que ce soit aux Philippines, à Singapour ou à Guam,
ou
des avions de patrouille maritime. Mais également ce qu'on appelle les Tiagos, qui sont des bateaux de surface qui remorquent des antennes très très longues qui permettent d'écouter ce qui se passe sous l'eau. Et actuellement, leur flotte de 5 Tiagos est concentrée autour de la mer de Chine méridionale.
Les Américains déploient par crainte ou par surveillance, ou les deux?
Alors, justement, pour l'instant, et notamment dès lors qu'il y a des doutes sur la doctrine chinoise, j'ajoute que la doctrine chinoise est marquée par sa très grande opacité. Il n'y a aucune transparence. Et donc, pour l'instant, on a des estimations.
Ouais.
Pour l'instant, lorsqu'on parle de l'évolution du nombre de têtes chinoises, le dernier rapport américain dit que ce nombre pourrait de l'ordre de 350, évoluer à court terme vers 700 et peut-être un peu plus tard vers 1000. Tout ça, ce sont des estimations. Il n'y a aucune déclaration chinoise sur le sujet.
Et on n'a pas d'autre choix que de laisser faire.
Ah ben, de toute façon, il faut observer, hein. Mais du coup, cela incite les Américains à bien réfléchir à la façon dont ils exercent leur dissuasion, qui, et je le rappelle, à la différence de ce que je disais de la doctrine française, pour les Américains, est une dissuasion élargie. C'est-à-dire qu'elle s'étend également à leurs alliés dans la zone, que sont le Japon, la Corée du Sud et l'Australie.
Natalia Pouzireff, effectivement, je disais, les cartes étaient rebattues. L'architecture que nous avez dépeint tout à l'heure, évidemment, prend une toute autre tournure.
Oui, il faut bien sûr s'interroger sur la volonté d'hégémonie régionale de la Chine, de sa portée. En tout cas, comme l'a dit Madame Perrondoise, effectivement, l'extension du collier de perles est visible dès aujourd'hui, c'est tangible. Alors, on a des routes soi-disant commerciales, mais il faut bien voir que dans le chapelet d'infrastructures portuaires que la Chine entend développer, vous avez des ports de grande capacité au Sri Lanka, au Pakistan, ce qui inquiète beaucoup la Chine, qui sont là pour accueillir des porte-containers, mais qui en fait pourraient permettre peut-être aussi d'accueillir d'autres types de bâtiments. Donc cette extension est à surveiller, cette continuité que la Chine est en train d'établir entre points d'appui est à surveiller, puisqu'elle vient, vient jusqu'en Méditerranée aussi, hein, si on y inclut le port du Pirée et les accords qui avaient été passés avec l'Italie sur le port de Gênes. Donc c'est une continuité commerciale, il y a une grande interdépendance, parce qu'il ne faut pas voir ça seulement sous l'aspect défensif. D'ailleurs, c'est ce qui a inquiété l'Australie, hein, quand la Chine émet des mesures de rétorsion économique vis-à-vis de l'Australie. L'Australie souffre et tous les pays de l'ASEAN sont interdépendants et dépendants de la Chine aussi dans une certaine mesure. Donc les capacités de pression ne sont pas seulement militaires. Mais si on revient sur le fait militaire, c'est le contrôle des routes qui est absolument important. Alors, est-ce que la Chine veut avoir un contrôle absolu? Elle le niera sur le détroit de Malacca ou sur la mer de Chine méridionale, mais en tout cas, elle veut pouvoir contrôler tout ce qui s'y passe dans une certaine mesure. Et la différence entre le contrôle et contrôle absolu, ce serait d'empêcher les autres de passer. Or, ça, c'est contraire au droit international, à la liberté de navigation. Et donc, pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, si les Américains sont si présents, si la France s'y projette, comme par exemple ça a été le cas en envoyant un sous-marin nucléaire d'attaque récemment, c'est pour affirmer cette volonté de laisser les voies ouvertes et que la Chine ne doit pas s'arroger le contrôle de passage. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont les voies stratégiques.
Mais
en termes d'approvisionnement.
Vous parliez de surveillance. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement surveiller. Et on ne peut pas passer au step d'après, parce qu'évidemment, après, ça entraîne tout un engrenage qui est évidemment préjudiciable pour l'ensemble des alliés, justement.
Non, mais patrouiller, ne serait-ce que passer, naviguer.
Oui.
C'est une action. C'est une action, sachant qu'on est contrôlé, on est surveillé. Les bâtiments vont être suivis par des frégates, des navires chinois. Et affirmer cette présence, c'est déjà énorme.
Mais Natalia Pouzireff,
ça inclut un certain risque aussi.
Pardonnez-moi de vous couper, mais quelle est la réaction des Chinois lorsqu'on surveille? Est-ce qu'ils se disent, bon, bah, finalement, il y a quand même d'autres acteurs dans cette région, ou ils se disent, nous, on est les Chinois, très honnêtement, on s'en fiche, quoi. Ils peuvent continuer à nous surveiller. Nous, on est les Chinois, on est les surpuissants dans cette...
Mais je crois que c'est tout à fait le maintien des voies ouvertes et le fait qu'on soit présent, ça fait partie de la capacité de dissuasion, quelque part, politique. Ça montre notre détermination, notre stratégie à vouloir circuler librement. Non, je crois qu'ils en prennent compte. Et si jamais nous n'étions pas là, c'est là où ils avanceraient leur pion. C'est le jeu de Go. Donc on développe des
c'est
îles polders.
Ça veut dire qu'on a quand même un rôle à jouer dans la région.
Absolument.
Quand même. Si on n'était pas là, ce que dit Madame Pouzyreff, ça serait pire, Marianne.
Oui, je pense que c'est extrêmement important parce que ce que l'amiral a décrit, c'est une compétition militaire entre deux puissances qui augmentent progressivement leur ordre de bataille, qui se surveillent, qui essayent de s'analyser l'une l'autre. Et quelque part, ça fait partie des relations militaires internationales. Un partenaire, un adversaire qui essaye de contrebalancer votre hégémonie. Donc vous êtes dans une rivalité de puissance qu'on peut comprendre. Mais il y a le droit international, donc le respect du multilatéralisme, d'un certain nombre de...
C'est bien de le préciser,
de
il est encore là le droit international.
Il est là, et la France en fait un axe majeur de sa posture indo-pacifique. Et donc, comme Madame Pouzyreff le mentionne, cette présence, ces transits, cet exercice du droit de passage inoffensif, cet exercice de la liberté de navigation, c'est effectivement mettre en pratique la Convention de Montego Bay et c'est faire comprendre aux Chinois qu'un certain nombre de partenaires, un certain nombre de puissances riveraines ou extérieures à la zone, d'ailleurs puisque la France n'est pas seule, l'Allemagne aussi, le cas échéant, certaines marines européennes peuvent aussi assurer ces missions de présence pour faire comprendre à la Chine que ces prises de décision, ce révisionnisme quelque part dans l'application de la Convention de Montego Bay n'est pas acceptable et donc on exerce un droit de navigation et on n'entend pas laisser les espaces maritimes entièrement occupés par la marine chinoise.
Ouais, on ne se laisse pas impressionner d'une certaine manière parce que même s'il y a une opacité chinoise, vous me disiez en préparant ce podcast, Marianne Perrondoise, qu'il y a une véritable... surcroît de démonstration de force de la Chine ces derniers temps. Et c'est d'ailleurs dans une note que vous préparez avec Valérie Niquet. Il y a d'autres acteurs quand même dans cette zone, on n'en parle pas, mais il y a Taïwan, il y a la Corée du Sud. Comment est-ce que les autres regardent cette avancée de la Chine ?
Eh bien, en fait, on se rend compte qu'il a été assez facile de faire passer un message de la part d'un certain nombre de puissances, dont la puissance américaine, inquiète devant l'expansion maritime chinoise. Ce message de rappel du droit, qui est celui de l'ASEAN, de l'ensemble de ces pays que vous venez de mentionner, à commencer par le Vietnam, les Philippines, éventuellement l'Indonésie, qui sont en but à des revendications maritimes sur leurs frontières avec la Chine, qui sans arrêt voient des flottes de pêche venir pêcher dans leur espace maritime, ce qui est aussi le cas de la France dans le Pacifique, où la plupart des flottes asiatiques sont à dominante quand même chinoise et viennent donc braconner dans la zone économique exclusive de la France. Donc c'est une préoccupation qui mobilise un certain nombre de partenaires, non simplement parce qu'ils ont des ressources maritimes à protéger, et parmi ces ressources, on peut aussi mentionner la biodiversité, parce que cette présence en fait chinoise, par exemple en mer de Chine du Sud, s'accompagne de grands travaux de polderisation, de la constitution d'îles artificielles, de façon pour la Chine à revendiquer davantage, et de façon très unilatérale, des prérogatives liées à la souveraineté de zones économiques exclusives qu'elle crée de façon absolument artificielle. Donc déjà, les États riverains sont très inquiets. Et bien sûr, encore une fois, la communauté internationale, que ce soit le Japon, l'Inde, vous avez mentionné la Corée du Sud, entendent eux aussi voir respecter le droit de la mer parce que eux-mêmes, dans leurs espaces maritimes, sont sujets à des incursions chinoises. La Corée du Sud, en mer Jaune, a énormément de problèmes de pêche qui des fois se conclut par des épisodes extrêmement violents, avec un bateau coulé il y a quelques années, en tout cas des éperonnages assez réguliers. Le Japon se voit également challengé par la Chine, qui revendique un îlot et donc qui régulièrement fait intrusion dans la zone économique exclusive du Japon. Donc vous voyez finalement un certain nombre de pays de l'Indo-Pacifique qui entendent, je dirais, contenir cette expansion chinoise et rappeler la règle de droit, s'exercer, mettre en place des entraînements réguliers en mer de Chine du Sud, dans le golfe du Bengale, dans l'océan Indien, pour faire comprendre à la Chine qu'il y a un certain nombre d'autres puissances qui sont là.
Alors, la difficulté, c'est le fameux « pour faire comprendre à la Chine hein, ». Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Natalia Pouzireff.
Oui, il y a bien sûr ce sujet très préoccupant pour les pays voisins de l'expansion chinoise, de l'expansion côtière.
Tous les pays voisins, donc je les ai pas bien cités, mais effectivement, il y a l'Inde, il y a Taïwan, le Japon, l'Indonésie, la Corée du Sud, aussi. Les Philippines, Singapour, on peut aussi y rajouter.
Et puis la Malaisie.
Voilà, donc il y a quand même quelques petits acteurs.
Et l'Australie, je dirais, et la Nouvelle-Calédonie, puisque effectivement, vous l'avez mentionné, il s'agit de limiter la surpêche. Hein, c'est un enjeu mondial, je dirais, global, celui-là. Et il faut préserver les ressources halieutiques. C'est une des missions, je crois, aussi de la marine française. Mais il y a aussi peut-être une tentation d'un certain néocolonialisme de la part de la Chine, on l'a vu en Afrique, qui pourrait s'exercer effectivement dans des territoires où on ne souhaiterait pas que cela s'exerce, en disant laissez-nous accès à vos champs miniers, à vos ressources, et nous allons vous fournir de l'investissement. C'est quand même des prêts, c'est la stratégie qui a été mise en place, de prêts et de financement donc mise en place en Afrique, qui peut se reproduire dans d'autres pays qui seraient de façon conjoncturelle un peu vulnérables. Mais bon, je pense quand même il y a une lucidité parmi les pays de l'ASEAN, et que tout en reconnaissant les interdépendance économique, il y a une grande vigilance à ne pas se jeter trop vite dans les bras du grand voisin chinois.
Amiral, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ?
Je reviens sur les autres acteurs dans la région et les autres acteurs nucléaires. N'oublions pas dans la région le cas de la Corée du Nord, bien sûr, qui maintenant est de fait un État nucléaire.
Hein, avec c'est quoi le mode d'emploi avec la Corée du Nord ? Comment on fait pour dialoguer? Comment on fait pour...
Ça fait partie des grandes interrogations.
C'est ça.
Regardez les différentes méthodes utilisées par différents présidents américains. Pour l'instant, on ne peut que constater qu'elles ont toutes échoué.
Ouais.
Et que la Corée du Nord continue à moderniser sur un arsenal nucléaire. On estime qu'aujourd'hui, ils doivent avoir une quarantaine de têtes nucléaires. Ils ont relancé récemment leur réacteur de Yongbyon qui produit du plutonium pour justement produire de nouvelles armes. Ils testent régulièrement des missiles dont la portée s'accroît. Ils viennent récemment de faire un tir depuis une plateforme sous-marine. Donc c'est évidemment une préoccupation pour la Corée du Sud et le Japon et les États-Unis, mais pour nous aussi.
On n'arrête pas le progrès, je dirais, de manière cynique.
Parmi les autres acteurs de l'Indo-Pacifique, n'oublions pas, même si on en parle moins, l'Inde et le Pakistan, qui sont également des États nucléaires, qui tous les deux modernisent leurs composantes. On possède tous les deux une triade, hein, avec des missiles lancés depuis la Terre, avec des aéronefs capables de porter des bombes, et le développement, tant par l'Inde que par le Pakistan, de composantes sous-marines. Donc on a vraiment un paysage nucléaire de l'Indo-Pacifique qui est en complète évolution, et donc différent de celui qu'on peut constater dans la zone euro-atlantique, qui est plutôt marqué par le statu quo dans ce domaine.
Mais écoutez, alors justement, ça nous donne une bonne transition pour savoir, et c'est la troisième partie de ce podcast, comment est-ce qu'on peut s'entendre pour éviter un conflit, parce que j'entendais encore l'amiral Vendier en juin dernier dire « vis pacem para bellum », effectivement, prépare la guerre pour prôner la paix. Hein, et donc ça veut dire, d'une certaine manière, Pierre Vendier a raison de dire qu'il faut s'attendre à tout, Natalia Pouzireff.
Je pense que c'est le rôle, effectivement, de nos forces armées et de nos chefs d'état-major de se préparer à toute éventualité. C'est le mandat que leur confie aussi la nation. Et donc, les militaires se préparent, et je dirais, c'est aux politiques d'éviter la guerre. Et effectivement, les scénarios, tous les scénarios sont à l'étude. Je pense même que concernant Taïwan, il y a un scénario de collision possible entre les velléités de la Chine et peut-être la réponse que voudraient y apporter les Américains vis-à-vis de Taïwan, mais aussi pour sécuriser le Japon, qui est quand même un acteur important et un allié très important des Américains. Donc le rôle des politiques, c'est de faire en sorte qu'effectivement, par la diplomatie, mais il y a la dissuasion aussi qui entre en jeu, mais par la diplomatie, par le multilatéralisme, on n'en vienne pas à des extrémités, des extrêmes qui seraient délétères pour la sécurité globale. Mais chaque scénario doit être étudié. Et bien sûr, là, je pense que s'il devait y avoir un durcissement des tensions, on aurait une présence maritime plus forte de la marine américaine, qui soit demanderait l'appui éventuellement de forces européennes, ce n'est pas sûr, mais demanderait sans doute un soutien politique, au moins un avis marqué pour des alliés pour soutenir les actions des Américains. Mais tout est sur la table, mais rien n'est tranché. Et pour le moment, la position politique française, c'est de continuer à privilégier la discussion avec chacun, avec tous les participants, et à trouver toujours un dialogue de haute qualité, un dialogue stratégique avec la Chine également.
C'est assez, je ne vais pas dire ambivalent, mais en tout cas, on peut se poser la question de la stratégie militaire américaine, qui, on l'a vu dernièrement avec le départ d'Afghanistan, mais qui, pour le coup, est très présente sur d'autres territoires, et sur, notamment, amiral, sur le territoire maritime, effectivement, comme ça vient d'être dit.
Les Américains l'ont clairement dit, c'est vraiment le basculement, la concentration de leurs forces, effectivement, pour faire face à la montée en puissance de la Chine. Donc on voit effectivement une concentration américaine dans cette zone, ce qui ne veut pas dire qu'ils abandonnent, et notamment le théâtre européen. Je crois que c'est un des gros challenges.
On a souvent dit qu'ils ne voulaient plus être le gendarme du monde. C'est vrai et c'est pas vrai à la fois.
C'est vrai et c'est pas vrai, parce que la réalité se rappelle régulièrement à eux.
Oui. Oui, voilà. Et puis, ils veulent rester la puissance numéro un mondiale. Et là, il ne faut pas se leurrer. Il y a cette compétition entre compétiteurs stratégiques entre Chine et États-Unis sur le plan économique, sur le plan stratégique. Et si vous considérez qu'à un moment donné, la marine chinoise, la flotte chinoise peut dépasser la marine américaine, ça veut dire qu'il y a un rapport de force qui pourrait s'inverser. Je pense qu'on n'en est pas là, parce que ce n'est pas parce que vous alignez aussi beaucoup de bâtiments que vous savez bien vous en servir. Je pense que nos marines occidentales sont bien mieux aguerries que la marine chinoise. Il ne faut pas non plus surestimer. Mais néanmoins, on voit bien que la compétition, elle se passe entre les États-Unis et les Chinois. Et nous, Européens, avons certainement un rôle à jouer de présence maritime coordonnée. C'est le nom qui est donné, les PMC au niveau européen. Avec des moyens qui sont somme toute limitées. Je pense que nous avons aussi d'autres enjeux à regarder. Nous avons des enjeux du côté de la Méditerranée, c'est très clair, éventuellement de l'Afrique, des Balkans, et on ne peut pas l'ignorer. Donc on est aussi un peu observateur de ce qui se passe entre les Américains et les Chinois.
C'est intéressant ce que vous dites, amiral. Le savoir-faire du marin chinois, il est à quel niveau sur une échelle de 1 à 10 ?
Je ne sais pas si je vais le mettre sur une échelle. En tout cas, je partage l'appréciation de Madame Pougirev sur le fait que, en termes d'aptitude au combat, pour moi, l'US Navy dépasse très largement sa rivale chinoise. Mais à un moment donné, quand dans une zone, vous avez 10 frégates chinoises et une seule frégate américaine, même si les 10 équipages chinois sont peut-être moins bons que l'équipage américain, ça fait quand même la différence. Donc, de toute façon, de toute façon, les déploiements qu'ils ont et qu'ils ont fait, notamment en océan Indien, leur permettent de commencer à acquérir cette aptitude opérationnelle. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une quinzaine d'années, leur niveau opérationnel était très bas. Je pense qu'il est en train de progresser doucement.
Mais pour ajouter quelque chose, c'est que ça crée l'augmentation des capacités de marine chinoise, ça crée un risque d'imprévisibilité, enfin une imprévisibilité. C'est-à-dire que lorsque vous avez une marine effectivement un peu moins aguerrie, mais qui va venir plus proche au contact des bâtiments américains qui patrouillent, vous avez un risque de mauvaise interprétation, parce que C'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire que vous devez bien apprécier les mouvements de l'adversaire. Et si jamais un bâtiment occidental, quel qu'il soit, se sentait véritablement agressé par un bâtiment chinois qui aurait été un peu trop proche ou aurait lancé un mauvais signal d'alerte, voyez, et, mais de façon, je dirais, non déterminée, enfin par erreur, parce qu'ils ont manqué une manœuvre ou autre, eh bien, vous créez de l'imprévisibilité et ça, c'est un risque que les marins doivent calculer en permanence, certainement, et qui fait peser sur eux une grande responsabilité. Parce qu'il ne s'agit pas d'engager, bien sûr, un conflit sur la base d'une erreur.
Oui, et on l'a vu dans l'histoire que les conflits pouvaient démarrer sur une petite étincelle. Est-ce que cette étincelle, ça pourrait être Taïwan, justement ? La question de Taïwan, s'il y a bien un commencement dans tout ça, dans cette zone ? Qui se lance? C'est difficile à dire.
Oui, c'est difficile à apprécier parce qu'on sent effectivement cette notion d'imprévisibilité en fin de compte.
Bah, on a vu ce qui s'est passé avec Hong Kong pour vous faciliter la tâche. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une accélération.
Non, là, on est dans le prévisible.
On est dans une logique totalement différente. C'est-à-dire que Hong Kong avait été restitué par la Grande-Bretagne à la Chine et même si celle-ci avait accepté le système, enfin le principe d'un pays de système, on a bien vu combien la démocratie hongkongaise a été progressivement reniée avec la mise en place.
Le parallèle, c'est qu'il n'y a qu'une seule Chine, comme disent les Chinois.
Hein? Oui, le parallèle, c'est oui. Enfin, là, vous vous placez dans l'optique chinoise.
Je pense que vous savez bien.
Bien sûr. Mais je pense que Taïwan fait montre d'une grande résilience, d'une grande opiniâtreté, à la fois en diplomatie publique, où la présidente n'hésite pas régulièrement à réaffirmer l'indépendance de Taïwan, le fait que Taïwan, c'est un État souverain. Et même si, effectivement, depuis des années, la Chine a renié l'espace international de Taïwan, et on l'a vu très, très proche de nous, dans le Pacifique Sud, cette guerre du chéquier, où finalement, la Chine essaye d'obtenir l'abandon du soutien de certains micro-États insulaires à Taïwan, et ça se poursuit encore aujourd'hui. On voit au contraire les États-Unis réintroduire diplomatiquement Taïwan en essayant de lui ménager des espaces. Hein. On l'a vu au moment de la crise, elle n'est pas derrière nous concernant le Covid-19, combien finalement les capacités en recherche et développement de Taïwan pouvaient apporter à la communauté internationale et combien il était dangereux, par exemple, de laisser Taïwan en dehors de l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis travaillent pour réintroduire Taïwan, lui redonner un espace diplomatique au sein de la communauté internationale et beaucoup d'autres États n'hésitent pas à soutenir, je dirais, cet effort, y compris au sein de l'Organisation du commerce international. Et c'est extrêmement important puisque, Madame Pouzyreff, vous avez mentionné la guerre économique que se livrent les États-Unis et la Chine. Et on a beaucoup insisté ici sur la militarisation, sur les ordres de bataille. Mais cette interdépendance économique, elle est réelle et il y aurait un coût extrêmement élevé à payer pour la Chine en cas de dérapage, en cas de crise. Et je persiste à croire que la Chine est un acteur rationnel, de la même façon que les autres acteurs présents dans la zone, et qu'on est effectivement dans des logiques de provocation, mais qu'il y a des lignes rouges, et que chacun les connaît et saura s'arrêter à temps.
Bon, alors, oui, voilà un élan d'optimisme.
C'est ce que nous espérons tous, et je souscris à cette idée que la Chine n'est pas un pays foncièrement agressif et avec une volonté d'hégémonie absolue. Parce que déjà, ça nuit au commerce. Si vous avez des conflits, ça nuit à l'économie et là-dessus, la puissance chinoise est très réaliste. Et donc, je crois que pour eux, effectivement, avec le développement des routes, dès qu'ils peuvent avancer et placer des points d'appui, c'est très clair, ils ont une stratégie d'expansion. Mais néanmoins, je crois qu'elle n'est pas dans le contrôle absolu. La seule question, c'est Taïwan, véritablement. Le seul point dur, c'est Taïwan. Parce qu'on peut considérer que l'agenda chinois, l'agenda des dirigeants chinois, surtout réaffirmé par Xi Jinping, le dirigeant actuel, est de se dire, en 2049, tout est résolu. hein, puisque l'agenda, c'est, vous savez, 100 ans après, effectivement, la Grande Marche et la proclamation de la République populaire de Chine, 1949, 2049, ce sera l'avènement de la Chine, première puissance mondiale. Et dans cet agenda, il y a certainement des étapes. Alors, ce que je veux dire n'engage que moi, mais je pense qu'il y a une étape qui est, jusqu'à 2035, la montée en puissance d'une Chine militaire. Mais après, ils savent qu'il faudra qu'ils investissent sur le social, puisque le but en 2049 est d'avoir un revenu décent pour tous les Chinois. Revenu décent et un niveau de vie décent, c'est-à-dire un système de retraite qui fonctionne, ce qui n'est pas, y a pas de garantie telle qu'on les connaît en France actuellement. Donc des avancées sociales, une sécurité sociale tout simplement. Et ça, ça va leur coûter des milliards et des milliards, puisqu'ils sont très nombreux comme vous le savez. Donc je pense que il y aura un certain avènement de la puissance militaire chinoise. C'est l'agenda, le calendrier qui sont fixés. 2035, on investit un maximum et on montre notre puissance pour montrer cette affirmation de puissance. Et ensuite, on passe à autre chose. Mais dans cet agenda, y a-t-il la reconquête de Taïwan ou pas, d'une façon assumée militairement ou d'une façon plus soft, c'est-à-dire très progressive, parce que les Chinois sont dans le temps long? Ça, c'est difficile de le dire. Certains observateurs disent que c'est inéluctable. Il faudra laisser, je pense, encore un peu de temps, mais se préparer à
alors,
chacune des éventualités.
Parallèlement à ce temps long, il y a le temps court et on voit la formation, entre guillemets, de boucliers internationaux. Il y a l'AUKUS, il y a le Quad, il y a les dernières déclarations de Josep Borrell en se disant que peut-être que l'Union européenne a aussi un rôle à jouer. Est-ce qu'on a intérêt à faire ce genre de boucliers, qui sont des boucliers internationaux face à une Chine qu'on regarde comme étant effectivement ultra-hégémonique et ultra-dangereuse, ou effectivement on devrait plus couler la diplomatie?
On accumule des garanties de sécurité. On accumule des garanties de sécurité et l'optique de la présidence Biden, c'est de restaurer la confiance, envers les alliés. Et effectivement, vous me direz, l'AUKUS n'est pas le meilleur exemple de cette initiative, mais l'AUKUS, quelque part, témoigne quand même d'une posture américaine un peu inquiète, selon moi. C'est-à-dire que l'AUKUS, c'est carrément le renforcement ou le rééquilibrage d'un ordre de bataille sous-marin, un ordre de bataille en termes de capacité technologique avancée, qui paraît être, en tout cas, très menacé par les avancées chinoises que l'on a amplement décrites ici. Donc on a effectivement l'ajout de différents partenariats avec des objectifs très variables, des objectifs de dissuasion, des objectifs qui peuvent apparaître très offensifs comme l'AUKUS. Et il y a le Quad que vous venez de mentionner. Un Quad qui est une structure qui existe depuis 10 ans, qui paraissait assez molle, qui n'avait pas vraiment d'objectifs très clairement affichés, que là aussi l'administration Biden reprend pour en faire un forum assez inclusif, en y ajoutant des préoccupations de sécurité qu'on qualifierait de soft sécurité, notamment par rapport à l'AUKUS et à des formats d'alliance beaucoup plus militaires, où on parle de lutter contre la pandémie, où on parle de la résilience face au changement climatique, où on parle de s'entraîner, où l'on parle d'autonomie stratégique des chaînes d'approvisionnement, parce qu'il y a beaucoup de domaines où effectivement la Chine a avancé ses pions. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les États-Unis et ses partenaires se sentent vulnérables. Donc on essaye d'organiser une vaste communauté où chacun peut contribuer, l'Inde, le Japon en matière de construction d'infrastructures de qualité pour faire contrepoids au projet One Road, One Belt. Donc vous voyez quand même une organisation où on entasse de façon assez multilatérale, où on invite des partenaires. Le partenaire européen, lui aussi, s'est montré intéressé par le Quad parce que l'Europe a une conception assez coopérative de la stratégie Indo-Pacifique et donc veut bien coopérer avec les États-Unis, les partenaires du Quad, dans le domaine de la sécurité, je dirais humaine, notamment la production de vaccins, parce que la Chine a déployé une offensive de charme parallèlement à ses avancées militaires. militaire. Effectivement, elle a des capacités économiques. On a beaucoup mentionné à un moment la diplomatie des masques qui lui font gagner des points, qui fait que certains pays trouvent intéressant d'établir des relations avec la Chine, indépendamment du modèle politique que la Chine peut représenter. Et c'est vrai que se battre aussi sur le terrain du multilatéralisme, défendre une forme de système politique libéral, ça reste aussi un élément à ne pas perdre de vue dans ce grand combat et dans cette organisation de tout un ensemble de partenariats pour faire contrepoids aux avancées chinoises multiples.
Amiral Lozier, j'allais dire, pour en revenir à notre chère Marine nationale, la Marine nationale dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle observe, elle veille, elle reste sur ses gardes. Et d'une certaine manière, est-ce qu'elle elle peut aussi, déteindre sur les marines de des pays de cette région-là pour les soutenir, pour coopérer, pour former une grande famille maritime?
Alors, on l'a déjà mentionné, la Marine nationale défend d'abord nos intérêts territoriaux dans la zone. Et ça occupe déjà beaucoup, compte tenu notamment de la taille de nos zones économiques exclusives et de nos intérêts. On a parlé des intérêts halieutiques, du biodiversité, il faut évidemment les défendre. Ensuite, dans les zones où nous sommes moins territorialement présents, ce qui est le cas de la mer de Chine par exemple, eh bien, effectivement, il faut manifester, lorsque l'on envoie un bateau, on manifeste une politique. On manifeste une politique pour faire respecter le droit de la mer, pour dire oui, la France attache de l'importance à ce que la mer de Chine reste bien régie par le droit de la mer issu de Montego Bay et pas depuis Pékin. Et puis, on envoie des signaux. J'ai beaucoup parlé de nucléaire. N'oublions pas que la France est aussi une puissance nucléaire de l'Indo-Pacifique. Bien évidemment, parce que nous sommes riverains de l'Indo-Pacifique, mais parce que notre dissuasion protégeant nos intérêts vitaux contre toute attaque, d'où qu'elle vienne, bien comprendre, ça peut faire partie des menaces qui pourraient éventuellement venir de la zone Indo-Pacifique. Et donc, nous sommes aussi une puissance nucléaire d'Indo-Pacifique et l'envoi d'un bâtiment comme la mission Jeanne d'Arc qui a fait des exercices avec le Japon, les États-Unis il y a quelques mois, c'est un signal. Ne jamais oublier toute cette dimension et le lien qu'il y a à faire entre la dimension conventionnelle et la dimension nucléaire de nos forces.
Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire. Vous voulez rajouter un petit dernier mot, Natalia Pozirès?
Oui, tout à fait. Je pense que la France, mais bien sûr au-delà l'Europe, ce qu'elle entend défendre aussi, ce sont des valeurs, mais ce n'est pas qu'un vain mot, c'est une vision des droits inaliénables, des droits humains, et je dirais aussi de la démocratie. Et c'est comme ça que finalement, et par la diplomatie, et par un dialogue, mais sans jamais lâcher prise et en entrant dans un rapport de force que nous voulons aussi défendre nos valeurs, mais ce n'est pas seulement sur le plan militaire.
Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis dans Périscope, merci à Natalia Pouziref, à Jean-Louis Lozier et à Marianne Perron-Doise. Périscope s'achève, mais on reviendra assez vite et d'ailleurs on vous emmènera à bord de l'un des fleurons de la Marine nationale, le porte-avions Charles de Gaulle.
Vous venez d'écouter Périscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.defense.gouv.fr.